Partager la parole n'est pas une chose évidente. Une fois, Stéphanie avait dit, partager sur un sujet scientifique, on sait ce que c'est peut-être pas difficile. Partager la parole, eh bien, que le Seigneur nous conduise, me conduise et permette que sa parole porte des fruits et surtout que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Nous venons de fêter Pâques avec un S. Pour nous, la résurrection du Christ après Vendredi Saint. S'il est vrai que nous nous réjouissons de cet événement, savez-vous que ce mot « Pâques » écrit au pluriel n'existe pas dans la Bible ? Ça vous choque peut-être ? Alors, est-ce que la résurrection a vraiment eu lieu ? Il ne s'agit pas de tout confondre. Il y a un événement, puis un mot qui le caractérise. Car si on associe « Pâques » au pluriel, avec cet événement central de la foi qu'est la résurrection du Christ, dans la réalité, le terme fait allusion à autre chose. À quoi ? À la première Pâque juive, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Exode. L'un des éléments déterminants lors de la Pâque est le rôle joué par ce que la Bible nomme, Marie l'a mentionné tout à l'heure, les premiers-nés. Et sur cette notion des premiers-nés que j'aimerais parler ce matin, car nous y trouvons des éléments bibliques très importants qui ont traversé les siècles et qui jettent sur le Christ une lumière que nous n'avons pas l'habitude de voir. Alors, si vous êtes d'accord, suivez-moi. Nous voulons remettre en mémoire cette Pâque juive. Donc, je vais lire un certain nombre de textes. Ils ne seront pas au rétro, écoutez-les. Israël est donc en Égypte depuis plus de 400 ans. Après bien des années, le gouvernement, ici le pharaon et ses ministres, a transformé cette terre d'accueil en camp de concentration. Égo hypertrophié qui engendre la désolation. Ici, le meurtre des enfants en bas âge. C'est toute la saga autour de Moïse dans le livre de l'Exode. À ce moment, le texte souligne que Dieu a vu, il a bien vu la situation et qu'il prend les choses en main. Le moment de quitter cet enfer est arrivé. Mais voilà, cela ne se fera pas sans mal. C'est là son refrain qui n'a cessé de résonner jusqu'à nos jours. Pour nous remettre dans le bain, je relis ces textes. Prenez garde à la mention des premiers-nés. Exode chapitre 11. Après nombre d'avertissements, le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau, un seul, sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera enfin partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple et dis, « Ainsi parle le Seigneur, en pleine nuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au moulin, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Il y aura de grands cris dans toute l'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous sachiez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et Israël. » Nous sautons au chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Dites à toute la communauté d'Israël, le dixième jour de ce mois, on prendra un mouton ou une chèvre pour chaque famille, une bête par maison. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On prendra de son sang, on le mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. On peut s'étonner de l'apparente dureté de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est saint, qu'il ne tolère pas le mal, et intervenir de cette façon est extrême et ne le réjouit pas. Ensuite, il n'agit pas sans avoir au préalable averti les coupables. Et finalement, s'il y a jugement, il y a aussi, à quelque part, miséricorde. Plus loin dans Exode 13, nous lisons encore « Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras pour le Seigneur tout enfant né en premier de sa mère, ainsi que toute première portée de tes bêtes. Les mâles appartiennent au Seigneur. » Je souligne, les mâles appartiennent au Seigneur. « Tu rachèteras tout ânon né en premier à sa mère, et tu rachèteras aussi tout premier-né humain parmi tes fils. » La raison de ce rachat n'est pas donnée. Le Nouveau Testament nous donne sans doute la réponse. Si vous avez été épargné, ce n'est pas dû ni à vos origines, ni à vos vertus, ni à celles de vos ancêtres, car vous, Hébreux, vous n'êtes finalement pas meilleurs que les Égyptiens. Mais c'est Dieu qui vous a fait grâce. Alors, au sens biblique, qu'est-ce que c'est que ces premiers-nés? Vous me répondrez, ben, c'est une palissade. Ceux qui sont nés tout en premier, les aînés ou les aînés. Ah, attendez, voyons d'un peu plus près. Pour désigner les aînés, l'hébreu utilise deux termes différents. C'est là que ça se corde. Un premier terme, plutôt lié à l'aspect physique de l'événement, c'est le terme « péter », celui qui ouvre ici la matrice. C'est l'aîné au sens physique, celui qui est né au tout premier. En hébreu même moderne, le terme « miftar », tiré de ce mot « péter », signifie « la clé », ce qu'on ouvre. Et puis, il y a un deuxième terme, « bechor », terme qui vient d'une racine du monde agricole, signifiant « porter les premiers fruits » et par extension, être le premier-né dans une famille. Ce terme n'apparaît que tardivement dans la Genèse, mais il joue un rôle très important dans la vie d'Abraham et de sa descendance. Car ce qui est en jeu, ce sont les promesses de Dieu. Ce terme « béror » met l'accent sur la primauté, celui qui a une place d'honneur. Place d'honneur particulière, il était très considéré, et recevait une portion double, mais portait aussi une responsabilité plus grande dans la famille, parce que c'est sur lui qu'on comptait pour la suite. Ainsi, à l'exemple de Ruben, parmi les fils de Jacob, il va délivrer Joseph de la jalousie de ses frères. Dans la vie d'Abraham et de sa descendance, une notion lui est fortement liée, celle de la Bechora, qui vient du même mot, la même racine, le droit d'aînesse qui est lié au fait d'être premier-né. Cela sous-entend donc quelque chose lié aux promesses de Dieu. Nous percevons un tout petit peu de l'importance de ce bien. Pourtant, dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, ce terme de Béchor est aussi attribué au premier-né égyptien. Avec tout ce que cela impliquait dans la structure de la société égyptienne. Et pour ne pas oublier le prix payé, une fête de commémoration a été instituée. Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Et pour le souligner très concrètement, les premiers-nés hébreux ont dû aussi être rachetés par un sacrifice. Ce rite s'est poursuivi jusque dans le Nouveau Testament, puisque l'évangile de Luc nous rapporte au chapitre 2 la présentation de Jésus au temple. Ses parents ont accompli alors pour lui le sacrifice de rachat prescrit par le livre de l'Exode. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Jésus racheté. On se trouve là devant quelque chose qui nous dépasse, mais qui est biblique. Avant d'aller plus loin, je vais encore mentionner une petite chose un peu délicate. Est-ce qu'une fille, l'aînée, était aussi concernée par ces rituels ? Eh bien non. Dans cette civilisation-là, patriarcale, une fille n'était jamais considérée comme premier-née. Alors, mesdames, ça vous choque un peu, mais ne vous révoltez pas. Le Nouveau Testament corrigera cette faille-là, si on peut dire. Cela me permet de glisser un mot sur la primauté du Béhor. L'histoire biblique nous montre que tous n'ont pas apprécié ce titre, à juste titre, justement. Ésaü, par exemple. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Parce que mon sujet, ça aurait été trop long de tout partager, il y aura une suite, mais plus tard. Dans le texte des premiers-nés, qui n'en étaient pas, il ne faut pas oublier David. David qui était le petit dernier de la famille. Vous vous rappelez, on l'a fait venir. Ah oui, il y en a encore un là-bas dans les champs. On l'a fait venir. Et la référence à David me permet de citer un verset très beau du psaume 89, versets 4 et 5. « J'ai conclu, dit Dieu, une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. J'ai établi ta dynastie pour toujours. Je t'ai édifié un trône pour tous les siècles. » Puis au verset 27 à 28, « Lui, donc, David, mon serviteur, m'invoquera en disant, « Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. » Et moi, je ferai de lui le premier-né, le Béhor, le plus haut placé des rois de la terre. Donc on voit que la question fondamentale n'est pas le fait de naître en premier en tant que tel, mais il est celui que Dieu appelle le premier-né. Et de façon intéressante, ce psaume n'est pas cité explicitement dans le Nouveau Testament. Mais ces thèmes résonnent clairement dans la théologie chrétienne. En effet, la promesse faite à David, exprimée dans ce psaume, est un élément central que les auteurs du Nouveau Testament invoquent indirectement lorsqu'ils présentent Jésus comme l'accomplissement de l'alliance davidique et comme celui sur qui reposent les espérances messianiques. Et cela me permet de glisser maintenant au Nouveau Testament. À ce propos, j'ai lu le commentaire suivant. Le concept de premier-né avec un trait d'union, très important, c'est pas premier-né, c'est premier-né avec un trait d'union, est très important d'un point de vue théologique dans les Écritures. Chaque premier-né mâle devait être présenté à l'Éternel, ce qui pointait vers le miracle particulier de l'incarnation dans l'histoire du salut, puisque Jésus-Christ est le premier-né de Dieu le Père. Ce phénomène souligne un aspect important de la relation qui existe entre la première et la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Père, Jésus-Christ le Fils. Est-ce donc que cette notion de premier-né se retrouve dans le Nouveau Testament ? Et en quoi ça pourrait nous intéresser ? Alors oui, ce terme se retrouve. Le Béhor a été traduit dans le Nouveau Testament par « prototokos ». On reconnaît ici la racine qui a donné le mot « prototype ». Ce terme apparaît 8 ou 9 fois dans le Nouveau Testament, ça dépend comment on le compte, mais tous en rapport avec Jésus-Christ. Je répète, tous en rapport avec Jésus-Christ. Alors que l'expression « péter » de tout à l'heure, « l'aîné », n'a pas de terme équivalent dans le Nouveau Testament. Ainsi, dans la parabole du père et des deux fils, le fils prodigue, l'aîné ne porte pas ce terme de prototokos. Il faut bien comprendre que ce titre de premier-né, avec tout ce que nous avons vu tout à l'heure de primauté, de dignité, mais aussi de responsabilité, lié au fait qu'on parle d'une famille. Notre famille, celle de Dieu. Et là, j'aurai encore bien des choses à dire. Ça sera pour la prochaine fois. Déjà, en Luc, on lit Marie accoucha de son fils premier-né, Prototokhon, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire. Dès le début de sa vie terrestre, Jésus est donc perçu comme le fils aîné de la famille, celle dans laquelle il était sans doute, mais celle plus grande qu'il va fonder en quelque sorte. Cela ne nous étonne pas. L'Écriture va beaucoup plus loin encore. En Colossiens 1, nous lisons « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Mon but n'est pas ici de faire l'exégèse de ce texte que nous venons de lire. Ce serait un vrai festin, en fait. Mais je vais simplement souligner ces deux attributs tout sur notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 15, il est dit qu'il est le premier-né de toute la création. Attention, comprenons bien ce texte. Il n'est pas dit ici que Jésus est créé, mais qu'il est à la base de tout et que c'est lui, en lui que toute la création se tient. Il a été engendré du Père selon Jean 1, mais n'a pas été créé. Il porte en lui toutes les caractéristiques de Dieu. Ainsi, comme le petit bébé à Bethléem, il était Dieu. Comme le rejeté par les siens, il était Dieu. Comme celui qui a eu faim et soif, qui a dû se cacher, qu'on a méprisé, humilié, dévêtu, suspendu à la croix entre deux terroristes, en tout et partout, jusqu'à aujourd'hui, il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Tant de courants ont essayé d'expliquer Jésus pour finalement mieux se détourner de lui. Il reste une énigme. Mais il est aussi le commencement, le premier-né d'entre les morts, donc tête de file d'une humanité nouvelle, pardonnée, réconciliée avec Dieu, n'a plus besoin d'être dans la crainte de Dieu et du jugement, car pour nous, il a fait la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Dans l'épisode de la première Pâque, des innocents sont mis à mort à cause de cet égo d'un homme et d'un gouvernement. Semblablement, Jésus est mort, victime innocente du plus grand tyran, le diable, qui par son action perfide a tout saccagé. Mais semblable à l'agneau immolé dont le sang a protégé le peuple israélite, et les Égyptiens qui se seraient mis à l'abri la même chose, le livre des Nombres le rapporte, il est aussi cet agneau de Dieu dont nous avons commémoré le Christ à Vendredi Saint. Voilà, j'ai encore beaucoup à ajouter. Je vais simplement terminer par cette affirmation centrale de notre vie de foi. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1. Alors, ma simple question, est-ce que tous ici, nous avons mis notre confiance dans ce premier-né de Dieu, Jésus-Christ, le Prototokhos ? Que le Seigneur vous bénisse.